Introduction in English to explain that this is a work in progress which is included in a collective group of research of the National Museum of Natural History in Paris. This is all about collections of museums as historical sources. So all these objects have been appropriated, not obviously illegally, but still it's a point to examine closely. So my purpose is to show how collecting natural objects were not only a purpose in itself, but also mean to appropriate territories in the 19th century in Gabon, Africa. So, par le médium des objets, il s'agit toujours de ressources et de savoir à inventorier, d'autorité à se concilier ou à dominer, d'espace à investir, tant pour la collecte, l'ouverture de nouvelles voies de pénétration commerciale et politique, que pour une exploitation plus directe des territoires. Mes propres recherches se sont focalisées sur les collecteurs naturalistes en Afrique équatoriale dans la deuxième moitié du 19e siècle, mais au départ c'était un peu par hasard. Dans ce programme, je faisais la bibliographie, je relisais des récits de voyage, et en particulier le récit de voyage, les récits d'Alfred March et de Victor de Compiègne, qui ont voyagé au Gabon en 1872-73, et dont je vais parler tout à l'heure. Ce voyage avait attiré mon attention parce qu'il a été financé par un collectionneur privé nommé Aimé Bouvier, un ancien explorateur au Mexique qui était vaguement savant et qui finalement est devenu marchand naturaliste à Paris, et c'était un des grands collectionneurs du 19e. Donc ce voyage a été financé, disais-je, grâce à la vente des collections de spécimens de zoologie que ces voyageurs ont chassés en chemin. Comme le titre de ce catalogue d'oiseaux le montre, une toute petite partie des collectes de ces explorateurs, d'abord au Sénégal, puis dans différentes escales du littoral vers l'équateur, et enfin au Gabon, où ils ont été les premiers à remonter le fleuve Ogowé, que vous voyez sur cette carte, jusqu'à son affluent Livindo. Ceci m'a conduite à réexaminer d'autres récits de voyage et à constater que la chasse aux spécimens naturels avait joué dans ces explorations un rôle peu souligné dans l'historiographie, alors qu'à cette période, les voyageurs dont je vais parler et chacun de ces voyages ont rapporté en Europe et aux États-Unis des milliers d'objets, chacun d'entre eux, dont seule aujourd'hui une petite partie se trouve encore dans les musées. Donc je me propose d'examiner comment la collecte naturaliste a constitué à la fois l'une des fins, comme je le disais en anglais tout à l'heure, et certains moyens d'ouvrir des espaces africains qui étaient jusque-là inaccessibles aux Européens. Alors, il faut que je vous dise quelques mots d'abord de ce contexte. Ensuite, je vais essayer de mettre au jour la méthode utilisée par ces naturalistes pour pénétrer le territoire, telles qu'elles apparaissent dans les sources, et ensuite on va aborder la question plus particulière des transgressions d'espaces interdits et notamment d'espaces sacrés. Alors le contexte, la période de mon étude est assez limitée, elle se situe entre 1848 et 1878. C'est un moment charnière de l'expansion. La colonisation effective n'a pas été décidée, ni même envisagée par les milieux politiques de cette région-là, bien sûr, mais elle était désirée et envisagée par un ensemble d'acteurs dont on fait partie les milieux scientifiques et militaires liés à l'exploration des mondes lointains. L'implantation française dans cette région est assez récente. Elle est matérialisée par l'existence d'un fort, le fort de Libreville. Et cette présence est essentiellement motivée par la nécessité d'un port de relâche pour les navires, de la station navale de l'Atlantique Sud, et la rade de Libreville est un endroit idéal pour cela. Deuxièmement, il s'agit de protéger les intérêts commerciaux français, qui ne sont pas encore très développés, et puis de lutter contre la traite négrière, qui est illégal depuis 1815, du moins entre Français et Anglais, parce qu'il subsiste une traite esclavagiste légale du côté des Brésiliens et des Portugais, et puis il existe une traite clandestine, bien sûr, et interne à l'Afrique. Alors cette rade, située sur un grand estuaire, est émaillée de comptoirs européens, anglais, nord-américain, portugais et français, installés grâce à des traités signés avec des chefs de clan Mpongwe, qui est l'ethnie principale sur l'estuaire du Gabon. Et ces chefs de clan Mpongwe sont eux-mêmes installés, chacun dans un district de la rade de l'estuaire, et qui tiennent sur le littoral le monopole du commerce avec les Européens. L'implantation géographique des sociétés africaines est fortement structurée par ce commerce transatlantique et plus particulièrement par une économie de courtage. Les marchandises africaines, c'est-à-dire le caoutchouc, l'ivoire, le bois, la cire et les esclaves, arrivent sur les côtes le long d'une chaîne d'intermédiaires. Alors, pour donner un exemple, si je suis un marchand au quota ici, j'ai des marchandises, je dois les confier à un commerçant Okanda qui est situé là, qui lui-même va les confier à un commerçant Enanga ou à un Bakele, qui lui-même va les confier à un Pongwe, qui lui-même va les vendre aux Européens. Contre des marchandises européennes, ce sont des marchandises de troc, hein, qui vont ensuite remonter, selon la même chaîne d'intermédiaires, jusqu'au fournisseur initial. Chaque société offrant ce service de courtage prélève sa commission au passage. Si bien que ce système est très, très lucratif pour les sociétés qui sont proches des littoraux, elle est beaucoup moins pour les fournisseurs qui sont dans l'intérieur, qui vendent mal leurs marchandises, mais en revanche achètent très cher les marchandises européennes. Alors, comme c'est assez lucratif, si vous voulez, chaque société contrôle de manière très étroite le territoire avec donc des, si vous voulez, c'est une forme de douane, et chaque territoire est défendu bien sûr militairement, mais aussi grâce à des seuils qui sont sacrés, qui sont religieux et que personne n'oserait franchir. Le contact direct avec les sociétés situées dans l'intérieur est donc impossible à cette époque pour les Européens, comme il l'est d'ailleurs impossible de traverser pour les Africains vers le littoral, mais il s'exerce déjà une pression. Au début, les Européens, les Français en tout cas, ignorent jusqu'à quel point ces relais de courtage structurent les échanges fort loin dans le pays. Au départ, ils sont satisfaits parce que les Pongwe sont de bons interlocuteurs, mais cette appréciation change, du moins côté français, car les prix montent et le volume des marchandises reste insuffisant pour remplir les navires. Ce sont deux problèmes qui sont à ce moment-là jugés liés entre eux par les monopoles territoriaux au fur et à mesure que le système est mieux connu, c'est-à-dire vers 1860. Et les explorateurs dont je vais parler ont d'ailleurs contribué à le faire connaître. Alors pour les Européens, le développement du commerce passe par les objectifs suivants, identifier des voies de pénétration nouvelles pour le transport des hommes et des marchandises, identifier les bons interlocuteurs africains avec qui on pourrait traiter, et toutes les questions au sujet des populations rencontrées témoignent de cette question, avec qui on pourrait traiter, qui est fiable, qui est travailleur, etc. Identifier aussi des modalités d'exploitation directe ou indirecte des ressources. On se demande à ce moment-là comment est-ce qu'il faut passer par les Africains ou mieux exploiter soi-même les territoires. Et enfin, identifier de nouvelles ressources. Alors, tout voyageur, quel que soit son objectif, est pris dans ses intérêts et dans ses objectifs. Parce que ce contexte lui donne des opportunités qu'il doit saisir pour gagner des appuis. Et sans ces appuis, de toute façon, il n'arrivera pas à visiter le territoire. Les voyageurs dont je vais parler, ils ont produit pour la plupart des récits de voyage qui sont déjà bien connus de l'historiographie précoloniale du Gabon. Un peu moins pour le premier, qui est Charles-Eugène Aubry-Lecomte. Mais c'est le cas de Paul Belloni du Chaillu, c'est un personnage qui a suscité depuis une dizaine d'années un regain d'intérêt. Et qui est bien connu aussi des Anglais et des Américains, puisque ses collections sont aujourd'hui beaucoup dans les musées anglais et américains. Et puis Alfred March et Victor de Compiègne. Alors tous, ce sont des passionnés de sciences naturelles, ce sont des chasseurs et ce sont des collecteurs naturalistes. Je n'aurai pas le temps d'arriver aux expéditions de Savognan de Brazza, mais je signale quand même, pardon, j'ai oublié de vous montrer les références des récits, que Alfred Marsh a été le quatrième Européen à accompagner Brazza dans sa première expédition de 1875-1878. Alors, Charles-Eugène Aubry-Lecomte, il est celui qui a attiré l'attention des naturalistes sur le Gabon. Il était aide-commis de la marine au fort de Libreville entre 1849 et 1856, et il a envoyé au muséum, via le ministère, des objets de toute nature, et notamment des plantes vivantes, ce qui était rare et difficile à ce moment-là. Des spécimens zoologiques et notamment des chimpanzés. Alors c'est le moment où les sciences naturelles vont se passionner pour les grands singes d'Afrique. Et puis les premières têtes humaines osseuses prélevées directement sur le sol gabonais à des fins anthropologiques. Certains spécimens, enfin ce sont plutôt les étiquettes des spécimens dans les collections, montrent qu'il a voyagé en réalité plus loin que Libreville. Il aurait effectué des déplacements, bien qu'il ne soit pas classé parmi les explorateurs. Mais on vantait ses grandes connaissances sur les savoirs indigènes et sur les produits commerciaux échangés sur les côtes. Il y a des échantillons avec des notes manuscrites de Sama qui montrent qu'il s'intéressait aux usages, aux noms locaux, à leur provenance, et lui-même a créé à Libreville un jardin d'essai pour cultiver des plantes issues du Gabon. Alors jusqu'ici, ce sont des modalités d'appropriation, je dirais classiques, dans le sillage des jardins d'essai, des jardins botaniques, qui ont émaillé les implantations coloniales sur le territoire, sur le littoral africain. Je peux renvoyer aux travaux de Dominique Jouet-Bolaton. Mais Aubry observe surtout les objets échangés sur les marchés locaux. C'est comme ça qu'il acquiert ses connaissances et lui-même ne se déplace que le long des côtes sous la protection des navires militaires. L'endroit n'est ni sûr ni paisible. Il y a des pillages de marchandises, des prises d'otages, des opérations punitives qui interviennent régulièrement, tant entre Africains que entre Africains et Européens. La violence fait partie des rapports sociaux et nos voyageurs vont devoir s'y inscrire. Il y a d'ailleurs dans les connexions anatomiques du Gabon des têtes humaines dont l'identification montre qu'ils sont soit issus de prises d'otages, de conflits, des brigands fusillés, etc. Donc c'est assez intéressant, ça reflète quand même assez bien le contexte de l'époque. Alors celui qui va réussir à traverser ces frontières très verrouillées, c'est Paul Belloni du Chaillu. C'est le premier Européen à avoir pénétré l'Interland jusqu'à 200 km de la côte. Entre parenthèses, 200 km en 2 ans, ça montre quand même à quel point c'était difficile. Il a environ 17 ans quand il arrive au Gabon, vers 1848. Il est venu rejoindre son père commerçant. Alors, il existe des biographies de Paul du Chaillu, donc je passe assez vite. Juste pour dire qu'il connaît bien le milieu, il fréquente à la fois les missionnaires, protestants, catholiques, les commerçants qui l'accompagnent dans leur pérégrination. Et aussi, il se lie avec des jeunes Pongwe. Il est un bon chasseur, il apprend la langue miénée. Par la suite, il travaille à la colonie française du Plateau à Libreville, comme employé aux écritures puis magasinier. Il a donc bien connu Charles Aubry-Lecomte, même si en fait il n'en parle jamais. Quoi qu'il en soit, il collecte des spécimens d'abord pour les Français, puis pour les Américains, puis pour les Anglais. Il fait un voyage aux États-Unis vers 1852 et revient avec des subsides des musées américains, notamment celui de Philadelphie, pour la collecte. Sa méthode, il va la roder au cours de ses 2 premières expéditions, l'une vers, voilà une petite photo, l'une qu'il entreprend de manière très classique le long du littoral, et là il se risque vers Sangatanga, quelques explorations tout autour de Sangatanga. Une deuxième expédition qu'il fait à l'abri de vieilles connaissances qu'il connaissait déjà, vers le cap Esterias, et ensuite il va traverser jusqu'au mont de Cristal, ici les premières contreforts. Il traverse donc plusieurs ethnies. Et enfin, il va entreprendre son premier grand voyage en partant du royaume de Kama, situé ici, la lagune du Fernand Vaz, comme on l'appelle à l'époque. Ce sont les noms locaux de l'époque, hein. Je ne les traduis pas. Et il va pouvoir se rendre vers le lac Anangé, redescendre ici en pays Apingi et revenir. C'est là qu'il fait son voyage aux États-Unis et il revient donc avec beaucoup plus de moyens et avec l'objectif de traverser jusqu'aux sources du Nil. En fait, il va s'arrêter là. Il va quand même donc reprendre le pays Shira, Punu et le pays de Chogo où il devra faire demi-tour face à la résistance des Africains. Comment fait-il ? Alors, le premier élément de sa stratégie, c'est d'abord de s'appuyer sur les notables influents des sociétés africaines du littoral au lieu de s'appuyer sur les colons européens. Il faut obtenir leur confiance et il faut qu'ils soient intéressés à l'aider. Et pour qu'ils puissent le faire, il faut qu'ils puissent le faire plutôt en garantissant qu'ils trouveront aussi des appuis dans la société d'à côté, sur le territoire voisin, grâce à leur influence, et puis encore plus loin dans la société suivante. Alors, il avait déjà observé, lors de l'excursion vers le Mouni, que certains chefs de lignage ou de village ont dans les ethnies voisines des alliances commerciales qui sont consolidées par des alliances matrimoniales, ce qui les met à l'abri des exactions et leur permet de se déplacer plus librement. C'est ce qu'il appelle la stratégie des beaux-pères. En fait, plus vous avez de femmes, quand vous êtes un Africain influent, plus vous avez de beaux-pères et donc plus vous avez de protection dans la région. Ainsi, en gagnant à sa cause le premier maillon de la chaîne des intermédiaires, il pourra passer de maillon en maillon. Le deuxième élément de la méthode, c'est de faire du commerce avec ses premiers habitants du littoral parce que, tout simplement, c'est ça qui les intéresse. Et puis, pour lui, ça va lui procurer aussi des ressources qu'il va pouvoir utiliser pour se rendre dans l'intérieur parce que tout passage devra quand même se payer en marchandises. Hein, c'est la politique des cadeaux. Il faut donc qu'il soit accompagné d'une grande quantité de marchandises, puisqu'il a l'intention d'aller très loin, qui lui permettent d'entrer dans des relations d'échange avec les chefs des villages. Alors certes, il fait preuve de largesse, et ça c'est très mis en avant dans les sources, mais en échange, il reçoit le gîte et la nourriture pour ses hommes. Et plus on a de marchandises, plus il faut de porteurs, et plus on a de porteurs, plus il faut de vivres. C'est peut-être d'ailleurs une des limites de la méthode. Mais le quatrième élément très important, c'est de convaincre ses hôtes, néanmoins, que lui ne va pas dans l'intérieur faire de commerce. Sinon, ça, c'est fini, c'est mort, c'est cuit. Son objectif à lui, c'est de chasser, c'est de connaître, c'est de chasser notamment les gorilles, de visiter les montagnes, de connaître le pays et sa faune. Alors, à noter que dans son second voyage, en partant du royaume de Kama, c'est encore plus important, cet argument, qu'avant. Pourquoi ? Parce que c'est lui, du Chahut, qui a fait connaître l'existence de ce grand fleuve Ogowe, qui va apparaître aux Européens comme le moyen de traverser l'Afrique. Il était inconnu, ce fleuve. Et lui le révèle, et donc entre ces deux voyages, les commerçants, les Français, les Anglais ont commencé à vouloir s'engouffrer dans le delta de l'Ogowe. Donc il est bien embêté parce que les Orungu qui sont donc au nord du fleuve, et puis ensuite ceux qui sont au sud, ont pris une loi en commun, hein, interdisant à tout commerçant et à tout blanc de remonter le delta de l'Ogowe. Alors, comment fait-il ? Il va y avoir un grand palabre, il doit demander l'autorisation de passer outre. Et il y a donc un conseil qui se tient dans la résidence du roi, Olenga Yumbi, roi du Kama. Et il raconte. Alors, il y avait là un Pongwe, nouvellement arrivé du Gabon. Il venait comme moi solliciter la permission de passer outre. Quand la séance commença, j'eus soin que mon affaire fût traitée à part de celle du Pongwe, tactique qui me réussit à merveille, car on m'accorda la permission de traverser le fleuve, tandis qu'on la refusa à l'autre. Quant à moi, les orateurs alléguèrent que je ne me rendais pas dans l'intérieur pour faire du commerce, mais bien pour chasser et pour rapporter des peaux et des squelettes. Et ils ajoutent d'ailleurs, à la vérité, nous ne comprenons pas le goût de notre ami Chahut pour ce genre de pratique, mais bon, il faut le laisser faire. Il faut s'imaginer du Chahut chassant, collectant pendant plus d'un an chez l'Incomi, préparant les spécimens, les faisant sécher dans sa case pour les envoyer dans des caisses. C'est là quelque chose d'un peu incompréhensible pour les gens. Alors, quand je parle de stratégie de Duchaillu, il suffisait pas de le dire, il fallait bien le montrer, et le fait, ce n'est pas un simulacre, parce que c'est bien ce que Duchaillu est venu faire dans la région aussi. Il est venu collecter des spécimens. Cinquième élément de la méthode, c'est parler la langue. On a vu qu'il parlait le miennais, il parlait probablement aussi le bacalais. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs dans les autres récits de voyages ultérieurs comme sa méthode est reprise. Elle fait école en fait. Les gens, quand ils veulent organiser des explorations, ils ne se contentent pas de vouloir prendre la relève là où le précédent explorateur l'avait laissé. Ils étudient minutieusement comment il a fait et ils reproduisent en fait les mêmes choses. Alfred March et Compiègne, la première chose qu'ils font en arrivant au Gabon, c'est de dire qu'ils viennent chasser, c'est d'apprendre la langue miennais, etc. Alors le sixième élément, c'est l'intimidation, parce qu'il ne faudrait quand même pas oublier que Duchaillu était armé et bien armé. Il se déplace avec une escorte, parfois nombreuse, et dans ses bagages figurent d'importantes réserves d'armes et de munitions, et il en use plus d'une fois. Alors maintenant, ça, ce sont les éléments incontournables. Quand on regarde les récits de voyage, on voit bien que sans tous ces éléments combinés, ils ne passent pas. Il suffit qu'il y ait un élément qui manque pour que les difficultés commencent. Alors on peut éventuellement les lever, mais au final, le voyage doit s'arrêter. Plus il sort de la zone d'influence du chef dont il a l'appui, qui est le roi Kengeza, chef des Komi de la région de Gombe, qui contrôle tout le commerce sur le littoral, plus il sort de sa zone d'influence politique et plus il devient difficile de progresser. Alors maintenant, je vais parler d'autre chose. Je vais parler de la question des espaces particulièrement interdits, ceux qui sont les espaces sacrés. C'est finalement plus discutable parce que là, il faut lire entre les lignes des sources, faut réfléchir, faut... Alors je suis partie des remarques qu'avait faites l'anthropologue Julien Bonhomme. En 2006, il a fait valoir que les sociétés rencontrées par Duchaillu l'ont assimilé à un esprit lui-même. Il est le Mbouiri, il est l'Ogizi, il est le génie associé à l'eau, aux ancêtres, à la fécondité. D'une manière très convaincante, cet auteur l'analyse à travers l'importance de la culture matérielle qui, depuis des siècles, médiatise les relations entre les Européens et les Africains. À l'intérieur du pays, ces marchandises étaient connues, mais pas les blancs. Sur le littoral, oui, mais pas dans l'intérieur. Et elles semblaient finalement surgir dans de ces où. Duchaillu apparaît alors sous la figure du génie blanc des marchandises, à l'instar des magiciens forgerons, capables de faire surgir et multiplier les objets qu'ils forgent. La fabrication des objets de métal par les forgerons africains, c'est un processus secret, considéré comme magique. Alors, il est au lait un petit peu de ce mystère, et il est à la fois craint et admiré, redouté et désiré, ce qui le fait accueillir et ménager en tout cas, et on en espère des bienfaits. Et Duchaillu exploite cette situation de manière très claire. Donc les récits accréditent effectivement cette analyse, puisque lui-même rapporte être pris pour un esprit. Toutefois, moi, j'hésite à fixer la portée de la signification, en tout cas sa portée, pour expliquer la progression de Duchaillu sur le territoire. Parce qu'au fond, c'est un statut ambivalent d'être un esprit, toujours très ambivalent. Parfois, ça le sert, parfois, ça le dessert. Il peut être dangereux. Il peut apporter des maladies, etc. Effectivement, il y a des épidémies de peste, d'ailleurs, qui se déclarent sur son passage. En revanche, on peut quand même relever, en accord avec Julia Bonhomme, que les génies aquatiques dans cette région, les Mbouiri, les Ogizi, sont effectivement les gardiens des passages et des lieux sacrés. Et on voit Duchaillu capable de les transgresser, ces seuils et ces interdits. Ainsi, par exemple, aux environs d'Anyambié, un lieu mythique en plus, c'est la capitale politique et religieuse du royaume de Kama. Il y a une île couverte d'arbres, dit-il, qui est en grande vénération dans le pays. On l'appelle Nengé Nkoma, Quiconque met le pied dans cette île, me dit un de mes guides, est sûr de mourir subitement ou de devenir fou et d'errer dans cet état jusqu'à sa mort. Mon guide ajoutait que ce lieu était le repère d'un grand crocodile dont les écailles étaient de cuivre. Pour montrer combien leurs frayeurs étaient vaines, je me dirigeais sur le champ vers cette île fatale et je traversais la jungle dans toutes les directions. Les pauvres nègres, en me voyant aller ainsi, restèrent pétrifiés d'étonnement. Cette démarche, cependant, n'eut pas le pouvoir de dissiper leurs croyances, car ils en conclurent seulement que j'étais un esprit et que je me faisais un jeu de ce qui devait leur donner la mort. Alors, dans cet exemple, il résulte de la transgression du lieu sacré une perception où le blanc n'apparaît pas de la même essence, il n'a pas les mêmes dieux. Les lois ne s'appliquent donc pas à lui. De la transgression des espaces religieux à la transgression des lois, des droits, et à l'appropriation des espaces politiques, on constate, en tout cas je constate, une progression logique qui va de Duchaillu lui-même, de son voyage, aux autres explorateurs français. Alors, un autre petit exemple, là il s'agit d'un épisode où Duchaillu espionne de manière illicite une cérémonie secrète des femmes. Et puis, il est pris sur le fait. Donc, les femmes sont très courroucées et demandent un droit de réparation. Il refuse de payer le droit de réparation, alléguant que, puisque lui n'a pas les mêmes dieux, il ne croit pas à leurs idoles, leurs lois ne valent rien pour lui. Et il ajoute que s'il avait dû payer, etc., ça aurait été le terme de ses voyages, parce qu'il a souvent transgressé, finalement, des tas de lois qu'il ne connaissait pas. Ça marche. C'est-à-dire que ce sont les Africains, les hommes, qui vont payer pour Duchaillu la réparation de la transgression. Alors, deuxièmement, il y a d'autres lieux. Là, je ne sais pas quel était, en fait, le statut de cette île. Est-ce que c'était un cimetière? C'est assez probable. Mais il existe d'autres sites liés au Mbouri qui sont, comme je le disais, les frontières de ces territoires commerciaux et politiques. Ils sont gardés par des lieux de culte et par des prêtres du culte. Alors, l'un de ces lieux a été franchi 2 ans après le départ de Duchaillu, près d'Adan Inalongo, 2 ans après le départ définitif, disais-je, par un lieutenant. Cette fois, c'est un militaire. Alors, je vais aller un peu plus vite et pour dire simplement, pour résumer, que sur ce lieu qui était en grande vénération dans ce pays, qu'on appelait la pointe fétiche, il a transgressé, et là avec un acte de violence, hein, parce qu'il a dû mettre au fer le prêtre du culte et les Africains qui le suppliaient de ne pas le faire, et il plante le drapeau français devant le lieu du culte, ce qui montre bien le transfert ici d'un seuil, d'un territoire, un transfert de la puissance politique sur le lieu. Et puis pour revenir à mes chasseurs, Marche et Compiègne ont aussi transgressé des espaces sacrés, mais cette fois pour aller chasser. Et ils le font dans des îles manifestement protégées par des gardiens de sites. Il s'agit aussi d'îles désignées comme fétiches, qui sont situées sur ce lac ici, un grand lac, donc Anenge. Ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs ce ne sont pas forcément les îles en elles-mêmes qui sont sacrées, mais les oiseaux. Les oiseaux qui sont les oiseaux du Mbouiri. En gros, ils le racontent chacun dans leurs différents récits de voyage. D'abord, les pagayeurs ne veulent pas les y emmener, cherchent à les égarer. Ils sont épouvantés ou alors ils sont manipulateurs selon la version ou ne veulent pas contribuer à la destruction des oiseaux. Dans un deuxième temps, les chasseurs repèrent eux-mêmes ces îles et puis prennent position pour les tirer sur une île voisine. Et là, il y a un homme nommé Mbumba qui survient. Il s'en dit le propriétaire. En fait, c'est un oga, donc c'est au fond un roi. Ça veut dire maître de la terre, au fond, dans la société Nkomi. Il demande des compensations pour chaque oiseau tué, mais les chasseurs lui dénient le droit de se dire le maître de ces îles, et encore moins des oiseaux, parce que les oiseaux sont à tout le monde, et tout le monde a le droit de chasser. Alors, ils sont d'accord pour quelques cadeaux, puisqu'ils logent chez lui, en plus, mais non pas pour le droit de chasser. Et ils vont commettre pendant plusieurs jours une réelle hécatombe. Alors, pour notre sensibilité écologique, c'est assez, d'ailleurs, consternant de lire ce passage. Et ça pose la question du rôle des maîtres de la terre dans la conservation de l'environnement, d'ailleurs, au Gabon. Alors, c'est simplement pour en prélever les plumes, hein, le gardien ne se déclare pas satisfait des présents qu'il a reçus. Il se répand en malédiction et en imprécation. Alors, on serait tenté de voir dans cet épisode, je termine, un conflit de représentation au sujet de la propriété, au sujet du statut des objets naturels, des animaux. On ne peut pas aller dans cette direction. En Europe aussi, il existe des chasses privées et on ne chasse pas n'importe comment ou n'importe où. Donc, il s'agit plutôt d'une dénégation, en fait, de l'existence d'un espace culturel organisé par les Africains. Donc, c'est un espace qui est sauvage, hein, à leurs yeux. Mais cet exemple montre aussi le lien qui mène de l'appropriation d'animaux de chasse à l'appropriation de droits et puis à celle des territoires de chasse et finalement de l'exploration naturaliste à la conquête des territoires. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Agnès Lenné, pour cette.